seconde partie de notre reportage réalisé lors du Forum des associations solidaires à Arras le 2 décembre. On vous propose d'écouter des rencontres avec des assos locales, assos humanitaires, assos d'aide aux autres. On commence avec un entretien avec Adil Wakid, vice-président de l'asso Edum 62, une asso qui travaille sur la coopération entre la France et le Maroc. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Adil Wakid, on l'avait déjà interviewé il y a cela quelques semaines sur PFM. C'était au moment où il préparait un voyage pour apporter de l'aide à des villages frappés par le séisme.
On est parti donc du 25 novembre au 30 novembre au Maroc pour remettre au village sinistré suite au séisme qui a frappé le Maroc en septembre, si j'ai pas de bêtises, le 8 septembre 2023. On est parti dans deux villages, un qui s'appelle Tizi Noutcheg, qui n'a pas été ravagé puisqu'il y a quand même quelques fondations. Donc ça a surtout été des problèmes et des soucis de fissures au niveau des murs. Donc là, on a remis des bonnets, des gants et des couvertures puisque l'hiver approche et dans l'Atlas, ils ont vraiment besoin de chaud. Donc c'est pour ça qu'on a acheminé des couvertures, bonnets et gants qu'on a achetés localement pour faire tourner l'économie. Le deuxième village, par contre, qui est à 1700 mètres d'altitude, donc après le village d'Asni, là, par contre, c'était un village qui nous a vraiment marqué, très poignant, qui a été, lui, ravagé. Donc ravagé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une habitation debout. Les gens et les habitants sont encore et vivent actuellement dans des tentes. Et on a vraiment été choqués, marqués par le deuxième village. Ce dernier, par contre, on a ramené tout ce qui est denrées alimentaires puisque des couvertures et du chaud leur ont été acheminées par d'autres associations. Et au niveau du besoin, en fait, c'était plus des décollations. Donc on est parti pour faire travailler aussi le commerce local dans une sorte de métro, hein, ce qu'on appelle Atakadao, donc c'est au Maroc, c'est comme métro en France. Et on a acheté des denrées alimentaires et par famille, on a offert des kits où on peut retrouver de la farine, du blé, de l'huile, du sucre, du café, du thé et de quoi tenir quasiment une semaine. Donc il faut compter à peu près 150 habitants, il y avait une trentaine de familles qu'on a fourni de l'alimentation.
Donc vous parlez du deuxième village où les gens habitent encore dans des tentes. Comment ça se passe un petit peu? Donc c'est un peu comme des camps un peu de réfugiés, des camps de temporaires quoi.
Oui, effectivement, c'est des, je dirais pas des camps très précaires, mais on est vraiment on mesure le drame qu'ils ont subi ces gens. Et d'ailleurs, il y avait des habitants qui nous montraient leur maison. Et ils ont échappé à la mort parce qu'ils étaient pas dans la. Enfin, ils étaient heureusement dans la bonne pièce. Puisqu'il y a des pièces qui sont effondrées dans lesquelles ils n'étaient pas. Et là où ils étaient eux, bon, ils ont eu de la chance de s'en sortir. Donc au moment où je vous parle, donc on est rentré samedi, enfin dans la nuit jeudi à vendredi, ils sont encore dans des tentes en plastique. L'hiver approche, le froid approche. Sauf qu'à 500 mètres plus bas, il y a des gens qui ont eu des dotations telles que des bungalows. Et je m'étais posé la question pourquoi il y avait ces bungalows en bas et pas en haut. Bah quand on monte dans le village, déjà c'est tellement étroit qu'il n'y a pas de quoi faire passer un camion et d'acheminer ses bungalows. Donc ça nous a été. Enfin, ce qu'on a pu ressentir sur place, c'était quand même très poignant et très marquant.
Comment vous voyez un peu le ressenti des gens, comment ils vivent, comment ils ressentent les choses là-bas?
Bah là-bas, c'est le désarroi, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de maison, ils marchent sur des gravats, ils vivent dans des tentes. Mais il y a plusieurs choses qu'ils n'ont pas perdues, en tout cas, et qui est important, notamment au niveau du Maroc, c'est l'hospitalité, l'accueil, la générosité et le sourire. Ça, ils ne l'ont pas perdu et je pense que ça vaut tout l'or du monde.
Est-ce qu'il y a une suite pour vous, votre association? Comment ça va se passer un peu?
Alors, c'est compliqué puisque. Enfin, c'est compliqué. En même temps, non, on est revenu avec plein d'idées et je pense que ce village, on va encore y retourner sous une autre forme, puisqu'il faut savoir que depuis le séisme, les maisons qui ont été sinistrées ont eu une dotation de l'État. Ont eu aussi un pécule mensuel donc de 2000-2500 dirhams, ce qui représente 250 euros. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'autorisation de construire. Donc ils ont acheminé quand même de la ferraille et des parpaings qu'on a vu sur place, mais aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'autorisation de construire parce que comme c'était quand même un endroit qui était frappé par l'épicentre, il n'a pas d'autorisation du royaume de reconstruire en l'état et actuellement dans ces lieux-là. Pour autant, les habitants sont fort attachés par leur village, par leur culture, par leur environnement, par leurs racines. Ce n'est pas des gens qui iront forcément dans l'urbain, c'est-à-dire la grande ville qui est Marrakech à 1h30. Ils vont vouloir rester dans l'Atlas et je ne sais pas quelle va être la mesure et dans quelle mesure ils vont pouvoir reconstruire et s'ils peuvent reconstruire. Pour autant, on a vu des personnes âgées, des enfants s'asseoir sur des cartons par terre, à même le sol et les cailloux. Et j'ai peut-être une idée de faire fabriquer sur place prochainement des tables-bancs, du mobilier urbain, qui permettrait d'avoir une petite cohésion entre les deux villages qui sont séparés de quelques mètres, je dirais. Et ça permettrait de tisser du lien, d'avoir des petites tables pique-nique, des choses comme ça. Et pourquoi pas remettre des fournitures scolaires. Mais bon, on va essayer de créer un projet avec eux, puisque le premier village avec lequel on travaille depuis 8 ans, je pense qu'il a pris ses ailes. Le cordon ombilical, il faudra forcément le couper. Et ce village-là, avant de partir, nous ont dit « ne n'oubliez pas ». Donc je pense qu'on est revenu sans... avec en tête de ne pas les oublier. Et c'est sur la chose sur laquelle on va s'atteler pour les prochains jours, ou les prochains mois, ou peut-être les prochaines années.
S'il y a des auditeurs, des auditrices qui veulent aider votre association, aider les gens de ce village du Bao, comment faire ?
Alors comment on peut faire ? Déjà deux choses, je remercie l'AOF par son président Ali Boujouf, qui dès samedi prochain organise une soirée des années 80, et chaque entrée de 5 euros sera reversée à notre association Edum 62. Ensuite, normalement, il y aurait un couscous solidaire début février. Pareil, ça serait un don qui pourrait nous être versé. Et après, j'ai une page Facebook, Edum 62, donc AIDHUM 62, aide comme aider, hum comme humanitaire, 62 comme le Pas-de-Calais. Ensuite, j'ai ma page Facebook Wakidadil, donc en privé ou autre, ils peuvent se rapprocher de nous, et puis on verra dans quelle mesure ils pourront nous aider, mais toutes les bonnes âmes sont bonnes à prendre.
Alors bonjour, moi je m'appelle Clémence Lambert et je suis chargée de mission mobilité jeunesse chez Liane Coopération.
Alors Liane Coopération, c'est qui, c'est quoi ?
Alors Liane Coopération, c'est une association qui est un réseau régional multi-acteurs, donc qui a pour mission de faire la promotion de la solidarité internationale et qui accompagne plein d'acteurs différents, associations, collectivités, pour monter des projets.
Donc monter des projets de solidarité internationale, de la coopération Nord-Sud, des choses comme ça, c'est ça ?
C'est ça, en fait on a plusieurs types de programmes, notamment les groupes de mobilité jeunesse où on va accompagner des groupes de jeunes pour partir vers l'étranger et là, dans le but de rencontrer d'autres jeunes. On a aussi des programmes autour de l'Afrique, on a différents types de partenaires et on est référent sur le Festival des Solidarités en Hauts-de-France.
Alors justement, ouais, le FestiSol qui se termine, hein, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de ce festival ?
Alors le Festival des Solidarités, il existe depuis plus de 20 ans, donc il est porté par le CRID au niveau national, donc qui est une structure qui rassemble de nombreuses associations de solidarité internationale. Et dans les Hauts-de-France, c'est Liane Coopération qui est donc référent. Et la mission de Liane, c'est de découvrir les différents collectifs, de les accompagner sur la rédaction des bilans, sur le dépôt des dossiers coup de pouce, permettent d'avoir une aide à la construction des projets. Et puis là, aujourd'hui, l'idée, c'est de découvrir ce qui se passe à Arras et puis échanger avec les associations.
Alors justement, là, on voit qu'il y a quand même une diversité, une richesse associative, culturelle et de démarches aussi dans les associations locales. Un petit mot là-dessus, sur est-ce que c'est à l'image de notre région ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations dans la région ?
Alors dans les Hauts-de-France, effectivement, donc là, Arras a fait son FestiSol. Lille aussi, il y a Boulogne-sur-Mer, il y a Ternier, Château-Thierry, il y a des choses qui se passent à Villeneuve-d'Ascq, Marcambard. Donc en fait, plein de collectifs proposent des actions. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de contacts avec différentes personnes, le kamishibai qu'on a pu observer, les écoles, le couscous de ce soir, qui à mon avis va être une bonne réussite aussi. Donc là, on a un beau panel d'actions liées au FestiSol.
L'idée, c'est que les gens se rencontrent, mais aussi que le public, le grand public... rencontre ces associations ?
C'est ça, le grand public il doit pouvoir participer aux actions pour justement être lui aussi peut-être un jour acteur de la solidarité internationale et qu'il prenne connaissance des actions qui se passent dans d'autres pays ou même près de chez nous, qu'on ouvre le regard et les perspectives sur autre chose.
On a quand même l'impression qu'il y a eu un tournant dans la région. Alors je ne sais pas si vous avez le recul pour répondre à cette question, mais il y a quelques années, avant qu'il y ait eu le changement de direction à la région, il y avait beaucoup de projets. Et puis tout s'est arrêté net d'un moment.
Alors oui, il y a eu effectivement une politique qui a évolué. Après, je pense qu'il y a un tournant qui a été pris. Certaines associations ont réussi à le prendre. Et d'autres ont fait évoluer leur manière de faire pour pouvoir justement répondre et continuer de présenter et d'avoir des actions sur le territoire.
C'est-à-dire maintenant, c'est des appels à projets, des choses comme ça?
C'est ça, il y a des appels à projets qui sont déposés. Après, les thèmes ont évolué. L'environnement était peut-être un peu moins mis en avant. La solidarité internationale, ça va dépendre des pays avec lesquels on souhaite travailler. Donc voilà, les projets évoluent. Il faut suivre un petit peu ce que proposent les grands partenaires, les grands décideurs.
Bonjour, alors je m'appelle Martin Dousseau. Je suis président d'une association qui s'appelle Agir en Artois. Agir qui veut dire accompagner, guider, intégrer les réfugiés en Artois, donc ici à Arras et donc autour d'Arras. Et donc cette association a été créée en 2018 pour accompagner une famille de réfugiés irakiens avec 3 enfants et qui s'est spécialisée dans les cours de français. Donc nous donnons des cours de français à différentes personnes réfugiées à Arras. Aujourd'hui 6 nationalités différentes et depuis surtout l'année dernière à des Ukrainiens. Voilà, donc Elena est ici avec nous aujourd'hui avec sa fille Vassilissa qui a quelques semaines et nous accompagnons donc une quinzaine aujourd'hui de réfugiés ukrainiens et nous leur donnons des cours de français. Voilà, et donc le but de l'association c'est d'essayer de leur donner des cours le plus ajustés possible, c'est-à-dire des cours particuliers en fait qui leur permettent de progresser rapidement et qui leur permettent surtout de pouvoir passer rapidement des certifications, des diplômes auprès de l'Alliance française, en particulier le niveau B1, qui objectivement leur donne en fait la certitude qu'ils ont atteint un réel niveau. Et donc, c'est un peu notre objectif de faire vraiment progresser les gens en français, pour qu'ils n'aient pas le sentiment de pas pouvoir s'intégrer en France en fait. Le but c'est de leur donner la clé d'une véritable intégration en France, qu'ils puissent vraiment pouvoir faire tout seuls les démarches qui sont nécessaires, qu'ils puissent scolariser leurs enfants, qu'ils puissent suivre la scolarité de leurs enfants. Le problème des réfugiés, c'est souvent que les enfants progressent plus vite qu'eux, plus vite que les adultes, et que les adultes ne sont souvent pas capables ensuite de véritablement suivre la scolarité de leurs enfants. Et donc en fait, notre objectif, c'est de donner la possibilité aux adultes, aux parents, de pouvoir suivre leurs enfants et de pouvoir vraiment vivre eux aussi une véritable intégration en France et d'être ici chez eux. Voilà.
La langue, c'est très très important pour s'intégrer. On voit dans d'autres pays qui peut-être font cet effort. Aux États-Unis par exemple, il y a des programmes spécifiques pour les gens qui arrivent pour apprendre l'anglais. En France, c'est un petit peu plus délicat. On passe par des associations aussi. Comment vous voyez cette importance, cette primordialité d'apprendre la langue dans ce pays?
Alors effectivement, quand on regarde un peu, on s'est un peu renseigné sur la manière dont procèdent différents pays, notamment la Norvège. On a eu des échos de différents pays, bon, Israël évidemment. Bon, on constate qu'effectivement, quand un pays veut véritablement intégrer les gens qui viennent chez eux, ils se donnent vraiment les moyens et qu'ils mettent en place un dispositif très concentré qui permet en général en 1 à 2 ans, bon ça varie d'un pays à l'autre, mais qui permet de véritablement donner un niveau en français, un niveau en langue, dans la langue du pays. Et on constate qu'effectivement il y a des éléments fondamentaux hein, dans l'apprentissage d'une langue, et c'est tout simplement la concentration de l'effort. Hein. Le principe c'est qu'on ne peut pas apprendre une langue en faisant du saupoudrage, on ne peut pas apprendre une langue en faisant 1 heure ou 2 heures par semaine. Donc apprendre une langue, c'est un grand minimum de 4 heures, au minimum. Mais en général, c'est plutôt 10 heures de cours, entre 10 et 20 heures de cours. Et donc notre idée, c'est qu'il faut pouvoir donner aujourd'hui à des gens qui viennent cette masse critique, on va dire, d'heures de cours qui leur permet de véritablement progresser. Et en France, on constate que, bon, on n'est pas au fait de tout ce qui se fait, mais on constate qu'à Arras, il n'y a pas forcément ces éléments ou ces dispositifs qui leur permettent de vraiment progresser. Parce qu'il faut aussi que, pour que les élèves, pour que les personnes apprenantes progressent, il faut qu'il y ait des groupes de niveau. Si elles ne sont pas dans des groupes de niveau, elles sont noyées au milieu de 20, 30, 40 personnes et les cours ne sont pas efficaces. Donc voilà, il faut vraiment un dispositif particulier. Et donc notre but, c'est de leur donner vraiment ces moyens-là. Et voilà. Et donc, là, je pense qu'en France, il y a un peu une carence, effectivement. Ouais.
Un petit mot sur ce forum, qui est aussi l'occasion de rencontrer d'autres associations, peut-être d'autres associations qui font aussi en partie ce travail, hein, d'apprendre la langue à des personnes en exil. Comment vous voyez un petit peu ce forum et ces rencontres avec d'autres associations, et de manière générale, un peu ce lien entre les associations solidaires à Arras?
Bah écoutez, là, je viens de discuter avec la personne responsable de ce forum, qui est donc Madame Anne Tavernier, et l'échange est déjà tout à fait intéressant, parce qu'en fait, l'action qu'on mène ne peut être efficace que si, effectivement, il y a une certaine coordination entre les associations. Pour dire les choses à partir de ce que nous faisons, nous, ce qu'on constate, nous, avec les réfugiés que nous aidons, c'est qu'ils sont aux prises avec 1000 problèmes. Problèmes administratifs, problèmes liés à la vie quotidienne, problèmes liés à l'intégration. Bon, on n'imagine pas la quantité de problèmes que ces gens ont à gérer. Pour qu'ils puissent s'intégrer, il faut que tous ces problèmes puissent être pris en charge. Et nous, en tant qu'association, à notre niveau, on ne peut pas tout prendre en charge. Et donc la richesse de cette rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer des associations avec lesquelles on va pouvoir agir de manière complémentaire, avec lesquels on va pouvoir s'entraider pour pouvoir aider les personnes qui sont dans leur parcours d'intégration à véritablement pouvoir résoudre un par un, pas à pas, tous les problèmes auxquels ils ont à faire face, liés au logement, liés à leurs enfants, à la scolarité, liés à toutes les démarches administratives, liés à la vie quotidienne, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un peu le but de cette rencontre aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir se connaître et de pouvoir faire en sorte que les associations puissent travailler ensemble, bien sûr. Ça, c'est une très grande richesse, en fait.
Dernière question, en France, on entend aussi ce discours d'extrême droite qui dit il faut envoyer tous les étrangers chez eux. Est-ce que vous, en tant qu'associatif, vous êtes confronté à ce discours? Comment vous voyez les choses? Quelle réponse vous apporteriez?
Alors écoutez, moi, ce que je vois, c'est que la diversité est une grande richesse. Alors moi, je suis pour ma part enseignant, j'enseigne la philosophie dans un lycée, donc je vois aussi des personnes arrivant de divers horizons. Et je constate que les personnes qui arrivent des horizons du monde, qui arrivent de tous les coins du monde, arrivent avec de grandes richesses. Et sont capables d'apporter aussi à notre pays beaucoup de choses. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, qu'il faut être capable de faire cet effort d'intégration. Je pense que c'est une très grande richesse, mais effectivement, si cet effort n'est pas fait, c'est-à-dire qu'effectivement, si nous n'agissons pas pour que ces personnes s'intègrent véritablement par la langue, en tout premier lieu, effectivement, ce sera effectivement très problématique. Donc il faut faire ce travail. Il faut se donner les moyens de faire en sorte que les personnes qui arrivent de tous les coins du monde puissent s'intégrer à la communauté française et apporter leur richesse. Voilà, donc Elena, qui est là avec moi aujourd'hui, vient d'avoir un bébé, Vasilissa, qui a quelques semaines. C'est une personne qui est avocate à Kiev, qui est extrêmement volontaire, qui a appris en 6 mois le français et qui parle aujourd'hui un français de très bon niveau. C'est une personne d'une très grande richesse et moi je suis ébloui par ce que ces personnes peuvent apporter. Donc je pense qu'effectivement il faut jouer cette carte-là. Voilà. Donc, il faut pouvoir intégrer ces personnes, mais il faut s'en donner les moyens et ça suppose un effort. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc moi j'appelle aussi, je profite du fait que vous m'entendez ici aujourd'hui, pour dire qu'on a besoin d'aide, qu'il faut que les personnes qui ont du temps... soit capable de donner quelques heures par semaine pour aider ces personnes à s'intégrer. C'est pas des petites choses, tout le monde peut contribuer à donner 2 heures, 3 heures de cours de français par semaine. Enfin, beaucoup de gens peuvent le faire. Personne de retraités ou autres, il faut pouvoir aider ces personnes. Et c'est pas si difficile que ça. Je pense qu'on a tous en nous des ressources pédagogiques qui peuvent être mises au service de ces personnes. Voilà.
Martin Doussot de l'association Agir en Artois. Alors, si vous voulez vous rapprocher de cette association, le contact téléphone, c'est le 06 09 36 50 59. 06 09 36 50 59. On a aussi écouté au cours de ce sujet Clémence Lambert de Liane Coopération et Adil Wakid, vice-président de l'asso EDUM 62. Voilà, c'était la seconde partie de notre sujet consacré au Forum des assos solidaires. Ça se passait à Arras dans le cadre du Festisol samedi dernier, salle du dojo Hervé Liénard.